Carnet de campagne, bonjour. Nous sommes cette semaine dans le département de la Manche, et ce jusqu'à vendredi. Pas loin de 500 000 manchois, je préfère dire manchois que manchots, le long de ce grand bras de terre qui va de Cherbourg au nord à Avranches au sud. Entre les deux, le bocage normand de Coutances, capitale du jazz en Normandie, et Saint-Lô, ainsi que Cherbourg. Alors Cherbourg, c'est la ville du partage, c'est tout trouvé avec l'association Cherbourg de tout cher partagé, qui occupe une grande place dans les alternatives citoyennes de la ville. Recyclerie, troc, jardin partagé, disco, soupe, friperie mobile, dont son repère café, la réparette. L'ensemble est participatif, nous dit-on, à tous les étages, et prône le système D, le durable. C'est bien trouvé, Cherbourg. Cherbourgblog.wordpress.com, c'est l'adresse du blog, mais c'est un peu long, donc vous allez retrouver ça à nos pages d'émission. Nous ouvrons cette édition par la commune de Tessy-Bocage, toute proche de Saint-Lô, justement, qui protège aussi son patrimoine, et qui projette de restaurer un patrimoine unique en France, un mur d'abeilles, un vaste rucher unique édifié en 1800. Notre guide est Michel Richard. Et ensuite, nous irons sur les pas de Sceaux comme Sophie Champeau, initiatrice d'un événement original dont la 4e édition aura lieu en mai en Normandie au nom de la recherche en nutrition. Elle s'en expliquera tout à l'heure.
France Inter, carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Michel Richard, bonjour.
Bonjour.
Michel, vous êtes le premier magistrat. Tiens, encore un maire de la ruralité. On salue les maires ruraux, maire sans étiquette de Tessy-Bocage. Je dis sans étiquette, c'est pour rassurer le CSA qui nous écoute régulièrement, qui dit « Ah, lui, il est de gauche, il est de droite, il est du centre.
» Oui, c'est vrai que ça questionne toujours.
Ouais. Tessy-Bocage, c'est combien d'habitants, Michel ?
Alors, c'est une commune nouvelle. Nous avons, à l'origine, nous avions 1500 habitants, et c'est une fusion de trois communes, et maintenant, Tessy-Bocage représente 2480 habitants.
Ah oui, c'est bientôt une ville, alors, c'est plus un village.
Oh là, une petite ville, une petite ville.
Vous êtes proche de Saint-Lô.
Oui, nous sommes à 20 kilomètres.
Oui. Et vous avez un patrimoine exceptionnel, je crois unique en France. Alors, je tiens spécifier, Michel, que vous êtes apiculteur amateur, et donc vous avez un patrimoine, je dis unique, c'est un mur à abeilles.
Voilà, à Tessy-Bocage, nous avons effectivement un mur à abeilles. Alors, c'est quoi un mur à abeilles ? C'est un endroit où les personnes qui possédaient ce mur avaient fait des niches. Alors, chez nous, ces niches sont en terre battue, et ces niches étaient destinées à recevoir des ruches en paille. Et c'était, à l'origine, c'était le plus grand mur à abeilles connu de France, puisqu'il avait 100 cases recevant des ruches en paille.
Mmh. L'apiculture est pratiquée depuis plusieurs centaines d'années, en France en particulier. Et effectivement, on utilisait, on le voit sur certaines représentations, au Moyen-Âge, des sortes de grands chapeaux en paille posés sur terre, qui permettaient une récolte facile, mais la disparition de la colonie par la même occasion, parce qu'on la brûlait, on l'asphyxiait.
Voilà, c'est-à-dire que c'était, si vous voulez, c'est les rayons de miel, ce qu'on appelle des rayons, est fixé à la ruche en paille.
Oui.
C'était une construction presque naturelle, je dirais, d'un essaim. Hein. Et effectivement, pour accéder au miel, il fallait broyer tout ça et détruire, dans un premier temps, l'essaim qui s'y trouvait.
Mmh. Oui, absolument. On a la date de construction de ce mur à abeilles exceptionnel chez vous, c'est 1800.
Voilà, on l'évalue à 1800-1810, hein, ça a été construit par un local qui s'appelait Jean-Baptiste Gendrin, qui était né en 1783. Et la construction de ce mur à abeilles correspond vraiment à une époque où on a manqué de sucre. Il y a eu l'embargo de l'époque de Napoléon, qui a empêché, si vous voulez, l'approvisionnement en sucre de la France, en définitive. Nous n'étions plus approvisionnés en canne à sucre.
Mmh. Alors, que comptez-vous faire de ce mur exceptionnel ?
Alors, essayer de le reconstituer un petit peu comme il était à l'origine, c'est-à-dire refaire la couverture. Maintenant, on va refaire quelque chose en chaume, refaire les cases aussi qui reçoivent les ruches, et puis, sur une petite partie, remettre une ou deux ruches avec un jeune apiculteur local qu'on a contacté, et qui va permettre de redonner un peu de vie à ce rucher.
Le mur de Tessy-Bocage est un témoignage d'un savoir-faire très local.
Oui, bah écoutez, vous savez, à cette époque, on n'allait pas chercher les matériaux bien loin. Donc, l'argile était présente dans la région. Donc voilà, on a construit ce rucher avec la terre locale, quoi, je dirais.
Et à l'origine, on disait que c'était des petites abeilles, on les appelait les mouches à miel.
Les mouches à miel, et les apiculteurs étaient appelés des moucheux.
Oui.
Voilà, c'est ce qu'on dit, et les anciens encore ici les appellent les moucheux.
Alors, partenariat avec Maxime Lagrand, apiculteur, et puis il y a quand même un montage financier pour la restauration de cet édifice qui fait combien, une vingtaine de mètres de long, non ?
Oui, il fait une bonne vingtaine de mètres. Hein. Il n'y a plus que 34 cases sur les 100 d'origine, si vous voulez.
Et on imagine l'édifice d'origine.
Il a diminué de deux tiers, mais voilà, c'est quelque chose qui mérite une restauration et c'est ce que nous allons faire.
Donc avec l'aide de Saint-Lô Agglo et de la Fondation du Patrimoine.
La Fondation du Patrimoine et, je vous dis, un club de mécènes qui s'intéresse au petit patrimoine manchois. Donc voilà, c'est un budget qui ne va pas mettre en péril le budget communal. Hein.
Tant mieux.
Mais voilà, on est vraiment... Il y a déjà un petit moment qu'on se posait la question de cette restauration, puis on voyait toujours autre chose à faire avant. Et maintenant, voilà, on se lance, on y va et on est très content puisqu'on a beaucoup de retours, la France entière, je dirais.
Oui, j'ai vu, on a vu les dossiers, les articles dans la presse, ils sont vraiment très nombreux. C'est vrai que c'est une particularité, c'est un patrimoine unique en France. Et vous avez un lien pour découvrir Tessie Bocage. C'est tessiebocage.fr, adresse que vous allez trouver à nos pages d'émission.
Voilà. À l'origine, c'était Tessie-sur-Vire, puisqu'on a la Vire qui passe ici. Et maintenant, c'est Tessie Bocage, depuis que l'on est en commune nouvelle.
Merci Michel.
Merci à vous, Philippe.
Carnet de campagne. Philippe Bertrand, sur France Inter.
Nous restons encore un petit moment à Tessie Bocage, car cette commune est non seulement inscrite depuis plusieurs années dans la démarche zéro phyto, c'est le cas de l'agglo de Saint-Lô, mais elle accueille depuis 10 ans cette année un relais culturel régional extraordinaire par la qualité des créations et des diffusions de spectacles, aussi par le site dans lequel ce relais a été pensé, puisqu'il s'agit des anciennes serres horticoles de la municipalité. Le relais qui répond au nom de Usine Utopique avec un K est définitivement inscrit dans les gènes du territoire, sans jeu de mots. Quoique, à propos de gènes, le projet a été voulu à sa création en 2009 par l'association Art et Design en Normandie. Ça donne l'acronyme ADN, si vous voyez ce que je veux dire. Depuis, l'usine Utopique héberge des plasticiens et des écrivains en résidence et offre une palette d'événements et de services avec son artothèque, des lectures publiques, des expositions comme en ce moment, celle des artistes accueillis depuis 10 ans à cet endroit. C'est à voir jusqu'au 14 avril. Et il faut savoir que ce lieu est un des 5 relais, c'est pas rien, 5 relais culturels régionaux de l'ancienne Basse-Normandie. usine-utopique.com. Sophie Champeau, bonjour.
Bonjour Philippe.
Sophie, présidente de l'association Sur les pas de Sceaux. Sceaux comme Sophie, évidemment.
Sceaux comme Sophie à l'origine et Sceaux comme solidaire surtout.
Oui. Question personnelle, comment est né Sur les pas de Sceaux, vous spécifiez, après un basculement personnel ?
Oui, on va dire, la vie elle nous fait pas toujours de cadeaux, on le sait hein, tous, et là ce n'était pas une question de santé, mais c'était plutôt une question de survie. Donc je suis partie faire un petit morceau du chemin de Compostelle et l'idée m'est venue en marchant. Mmh. Et cette envie de partager et de faire partager au plus grand nombre des couches de santé.
Oui. Alors, vous les faites partager par l'intermédiaire de la marche.
Oui. Alors, je pense que la marche est un formidable remède pour bien des maux. Et en l'occurrence, l'originalité de Patso, c'est d'y associer principalement les chercheurs, des causes de santé que l'on souhaite défendre chaque année, et les thérapeutes qui s'y associent. Mmh. Voilà. Pendant toute la semaine.
Oui. Cette année, la 4e édition sera dédiée à la recherche en nutrition. Bien manger, 7 jours de marche pour en parler.
Tout à fait. C'est notre 4e édition. La première était consacrée aux maladies rares. La deuxième, en 2017, c'était sur la graisse et le don d'organes. En 2018, les accidents vasculaires cérébraux. Cette année, la nutrition, la dénutrition, les troubles du comportement alimentaire, tout ce qui touche à l'obésité, tout ce qui se touche aussi à l'activité physique et la nutrition, le sommeil, la nutrition. Il y a beaucoup, beaucoup de sujets à aborder. Et cette semaine de marche qui se déroulera du 18 au 24 mai nous permettra d'aller vraiment en profondeur sur ces sujets-là avec le soutien des professionnels de santé, des pontes des CHU de Rouen et de Caen qui se mobilisent à nos côtés.
Mmh. Autrement dit, les professionnels de la santé marchent avec vous.
Exactement. Ils viennent marcher sur la semaine, ils animent dans les communes rurales où on va s'arrêter des moments de rencontre qui sont des moments qu'on veut de bonne humeur et de bonne ambiance et c'est comme ça que ça se passe, quoi, tout simplement.
Mmh. Et évidemment, à chaque étape, il y a des rencontres avec les habitants sur ces étapes.
C'est ça. On invite évidemment tout le monde, tous ceux qui le souhaitent et qui peuvent marcher, faire une demi-journée, une journée ou plus. Chaque commune sur les étapes du parcours nous héberge gracieusement. Et avec les élus de ces communes, on co-organise des événements particuliers sur cette semaine pour que les professionnels de santé qui sont venus marcher puissent rencontrer la population et échanger sur les différents sujets qu'on abordera.
Mmh. Et vous collectez des fonds au profit des fondations des CHU de Rouen et de Caen ?
Alors oui, l'argent collecté grâce aux inscriptions, grâce aussi aux mécènes qui sont prêts à nous soutenir, on va orienter ces dons vers un projet de recherche sur les deux fondations régionales.
Oui. Les problèmes de nutrition, Sophie, touchent en particulier les jeunes et les adolescents avec un énorme souci, sans jeu de mots, d'obésité. Comment vous pouvez répondre, vous, via votre association à ce public qui parfois est un peu exclu des débats et des informations?
Je suis allée rencontrer différentes personnalités, entre guillemets, sur ces sujets-là, soit une animatrice au sein de l'assemblée d'animation avec des jeunes, soit un directeur de collège, soit une directrice de lycée, et je dois rencontrer encore des jeunes qui sont en insertion. Et cette communication en amont, avec des échanges avec eux, ça a permis de les sensibiliser de façon à ce qu'on construise complètement l'événement avec eux.
Il y a une date limite d'inscription pour la 4e édition ?
Non, il n'y a pas de date limite d'inscription jusqu'à la dernière, chaque jour. La seule chose, c'est pour les personnes qui voudraient faire la semaine et qui ont besoin d'être hébergées. Là, on mettra une date limite qui sera le 10 mai.
Très bien. Et donc le début de cette édition, le 18 mai, arrivé le 24 mai, 20-25 km par jour. Bien manger, 7 jours de marche pour en parler. Sur les pas de sceaux.com pour l'adresse de l'association. Merci Sophie.
Merci beaucoup Philippe.
Dans la Manche, encore un GIE, un groupement d'intérêt économique, a été créé par 17 paysans producteurs bio du département. Il s'appelle Biodiversité, avec un jeu de mots, on est sur la diversité, mais surtout sur les divers, plus loin cités, qui se proposent de livrer en effet à Paris et dans les cités de banlieue des produits issus du territoire, afin de faciliter l'accès à une nourriture fraîche de qualité certifiée AB et, nous dit-on, à des prix très corrects, c'est à vérifier. Ce GIE a permis jusqu'à présent de conforter des installations agricoles et de fédérer les paysans dans une action collective. GIE, trait d'union biodiversité.fr. Et puis nous terminons par un coup de pouce un peu particulier qui fait suite au courrier de Benoît. Benoît fait partie d'un groupe de soutien aux maraîchers et éleveurs du Sud Morbihan qui ont subi en décembre des actes de vandalisme sur leurs exploitations. L'acte totalement inconsidéré s'est soldé par des milliers de plants de légumes arrachés, des de tunnels lacérés, des centaines de balles de foin brûlées, plaintes déposées, une personne a été arrêtée. Mais ce qui nous regarde ici, c'est la situation des fermes dont l'avenir est totalement menacé, compromis. La Fédération Paysanne et les Amis de la Confédération du Morbihan ont ouvert une campagne de financement solidaire qui existe encore pendant 8 jours. Donc l'appel est urgent, le coup de pouce plus qu'urgent, il stagne un petit peu pour l'instant. C'est pourquoi nous relayons cet appel. La cagnotte est ouverte sur la plateforme Litchi à une adresse que vous allez trouver en lien direct à notre notre page d'émission Facebook et aussi sur notre page sur le site franceinter.fr. Je rappelle que la semaine prochaine, nous serons dans l'Orne et puis en mars dans les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, la Charente-Maritime et la Gironde avant d'aborder le Lot-et-Garonne début avril. N'hésitez pas à nous écrire.